Alors ce soir, on va faire la synthèse des 11 scènes de prière que nous avons vues ces semaines précédentes dans la Bible. Alors on va quand même faire un rappel de ces 11 scènes, à la fois se replacer dans, se rappeler quelle c'était historiquement la situation, et puis la leçon spirituelle. On va revenir sur ces 11, et puis on va voir quelques points communs et quelques enseignements à retenir sur ces scènes de prière bibliques. Parce qu'il est quand même, s'il y a bien un livre qui est capable de nous parler de la prière, c'est quand même bien la Bible. On est souvent, nous, influencés par notre histoire, notre passé, comme on a expérimenté la prière personnelle, alors on considère que c'est comme ça. Ou alors les récits des autres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres sur la prière. Il n'en manque pas et on en fera encore. Mais quand même, je trouve que la Bible est le meilleur moyen. Et le vécu de certains sont quand même les meilleurs indicateurs pour nous, pour savoir qu'est-ce que nous pouvons attendre de la prière. Alors on avait vu Exode 17, où on voyait cette situation où Moïse, pendant que Moïse priait, il y avait Josué qui était là dans la vallée et qui combattait. Ce passage nous montre que la prière relève d'une réalité d'ordre spirituel. Il y a un combat spirituel dans les lieux célestes. Et ça, on ne peut pas passer à côté. En Luc chapitre 9, c'était la scène de la transfiguration. Les disciples étaient là avec Jésus priant. Et quand eux-mêmes s'étaient un peu assoupis, il y a eu la transfiguration. Le visage de Jésus avait changer. La prière doit être pour nous l'occasion de découvrir la gloire de Dieu autrement que ce que l'on peut la connaître. Les disciples connaissaient Jésus, ils étaient avec lui, mais ce jour-là, ils ont vu la gloire de Jésus. Et la prière doit être pour nous aussi l'occasion de se laisser étonner, surprendre, de voir la gloire de Dieu. Un roi, chapitre 19, nous avions cette histoire d'Élie qui était complètement découragé. Après une succession de victoires et d'échecs, il avait l'âme découragée, abattue. Il était là dans sa caverne. Et ce temps de prière nous montre que la prière doit être pour nous le renouvellement de notre être intérieur. Lorsque nous sommes fatigués, abattus, découragés, pas la peine de réclamer la mort, même si ce serait bien souvent ce qui nous passe par la tête, mais que nous sachions retrouver ce murmure doux et léger, loin des bruits, loin des encouragements peut-être des hommes, loin d'une parole inspirée, mais juste ce murmure doux et léger qui est capable de redonner de la vie à notre être intérieur. Matthieu 26, où on voit Jésus dans le jardin de Gethsémané, lui qui est oppressé, lui qui dira qu'il a la... Son âme est triste jusqu'à la mort. Jésus, à ce moment-là, ne prie pas pour les autres, il prie pour lui. Il est là dans un temps personnel, solitaire. Il ne prie pas pour le monde, il prie pour lui. Et il faut aussi que nous réalisions que la prière, c'est également un temps personnel. C'est un moment où on a besoin de prier pour nous. Priez pour notre force, priez pour nos décisions, priez pour que le Seigneur nous rende capables. Et il est nécessaire de prier pour nous. La prière, c'est cela aussi. Comment sauver les autres si nous-mêmes nous sentons faibles? Et la prière, c'est également un temps pour prier pour nous. Daniel, chapitre 6, dans ce passage, on voit que Daniel continuait de prier alors que la menace de mort était sur lui. Il savait que s'il priait, il pouvait risquer sa vie. Et ça, cela nous montre que la prière doit être un exercice constant. Il doit y avoir dans notre vie de la fidélité dans l'exercice de la prière. Et quelles que soient les circonstances. On a tous entendu des gens comme ça dire « Oh non, je suis pas bien, je viens pas à l'église. Ah, j'attendrai que ça aille mieux pour faire ceci. » Non, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, notre vie est réglée. Elle est calée sur la prière, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, trois fois par jour. Et même si ce jour-là, Daniel a monté les marches pour aller prier, et qu'il savait que peut-être il risquait sa vie. Il n'a pas dérogé ce rendez-vous divin. Actes, chapitre 2. Acte 2, c'est la Pentecôte. Et alors c'est vrai qu'on est ébloui, on dit oh, la visitation du Saint-Esprit, mais il y a une leçon dans ce passage-là. On voit qu'il y a un parfait équilibre entre l'attente active des disciples et la souveraineté de Dieu. Parce qu'on avait eu le temps de disséquer un peu ça, mais c'est la souveraineté de Dieu qui fait que c'est ce jour-là et pas un autre où Dieu a envoyé le Saint-Esprit. On a vu les raisons pour lesquelles Dieu a envoyé le Saint-Esprit ce jour-là. L'effusion du Saint-Esprit, c'est pas nous qui le créons, c'est la souveraineté de Dieu. Mais d'un autre côté, on voyait qu'il y avait une attente active, non pas une attente passive, mais une attente active des disciples. Et là, c'est le parfait équilibre entre ce que Dieu attend de nous, une attente, une soif, un désir, tout en respectant que c'est la souveraineté de Dieu. Exode, chapitre 33, où là on voit que Moïse sortait de la tente d'assignation avec le visage resplendissant. Le temps de la prière, c'est un temps où quand on en ressort, notre visage ne doit plus être le même. Notre visage doit être rayonnant, allégé. Notre âme doit avoir été au bénéfice de la grâce de Dieu. Et quelque part, c'est même logique. C'est logique. Quand on va dans un endroit, on porte l'odeur de l'endroit où on est allé. On ne peut pas aller à la rencontre du Seigneur et ressortir comme si rien n'était. Cela doit aussi faire partie de nos objectifs. Quand on se met à genoux, Seigneur, je cherche ta face, mais je veux que quand je me relèverai, il y ait quelque chose de toi qui se soit déposé dans mon âme. Actes chapitre 4 nous montrait une réunion en commun. L'Église était tous ensemble, priant d'un même cœur, unissant leur voix. Et là, on a vu la bénédiction de Dieu qui ne s'est pas répandue sur quelques-uns, mais sur tous les disciples. Ils étaient remplis du Saint-Esprit annonçant. Et là, on a vu la bénédiction et l'importance de la communion fraternelle dans la prière. Deux Rois, chapitre 4, on avait vu Élisée qui s'était couché de tout son corps. Il avait même mis sa bouche sur la bouche, ses mains sur ses mains, ses yeux sur ses yeux, sur un corps mort. Et là, on avait tiré cet enseignement que la prière, ce n'est pas seulement des formulations, mais c'est un engagement, c'est un dévouement, c'est une implication esprit, âme, corps. Et même si la palpation n'est pas agréable, même si l'atmosphère n'est pas agréable, on s'y engage parce que nous voulons communiquer la vie au travers de la prière. Actes chapitre 10. Ah oui, c'est le temps où Pierre va monter là pour un temps de prière ordinaire. Il a la visitation, il a une vision. Et Corneille, un autre homme qui était aussi un homme considéré, un homme qui était reconnu comme étant un homme qui priait, qui était un homme généreux, lui aussi a une vision. Que lorsque nous prions, que nous soyons aussi disposés à nous laisser surprendre par des visions du Seigneur. Que quand nous prions, nous puissions aussi être sensible au Saint-Esprit, à ses interventions, à ce qu'il pourrait déposer sur notre cœur. La prière n'est pas que des revendications, des requêtes, des habitudes, mais même dans l'ordinaire de notre prière, la prière du matin, la prière du soir, la prière où on le fait par habitude, par régularité, même dans ces moments-là, le Seigneur est celui qui peut se révéler à nous. Et puis nous avions terminé la semaine dernière avec Daniel chapitre 9. La prière d'humiliation. La prière d'humiliation, non pas pour lui-même, mais la prière d'humiliation pour le peuple. Daniel, lui, qui était dans une situation très confortable, priera pour le peuple qui est dans la misère. Lui qui est un homme au témoignage exemplaire, va s'identifier au péché du peuple. Et là aussi, nous sommes appelés à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, à pleurer avec ceux qui pleurent. N'oublions pas aussi nos bien-aimés qui sont dans le péché. Ce sont nos bien-aimés, prions avec eux, comme si nous aussi nous avions péché avec eux. Ceux qui sont dans la misère, peut-être que nous la misère, c'est on ne connaît pas, je ne sais pas, il y a le chauffage, il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut à la maison. Et que nous puissions être impliqués de cœur et nous associer, esprit, âme et corps, avec le peuple qui souffre. Alors, je n'ai certainement pas évoqué toutes les scènes de prière, mais déjà au travers de celle-ci, cela nous apprend qu'il y a une grande diversité de la prière. La prière n'est pas une forme, mais en fait c'est une vie, c'est un corps. Elle doit être assouplie. Quelques points communs de ces différentes scènes de prière. J'ai marqué la notion du temps. Même si ce n'est jamais explicitement dit, on voit que la notion du temps a de l'importance. Ce n'est pas le temps qui fait la prière, mais on sent quand même qu'à chaque fois, la notion du temps a de l'importance dans la vie de prière. Pour ceux qui font du sport, et pour ceux qui ont l'habitude de courir, ils se sont tous aperçus que quand ils commencent à courir, à mettre leurs chaussures à courir, au bout d'un moment, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, en fonction des uns des autres, mais c'est souvent dans cette proportion-là. Ils courent et puis, au bout d'un moment, ils ont l'impression qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont l'impression qu'ils sont fatigués, qu'ils sont au bout de leur force. Et la grande est la tentation de dire « bon, j'arrête ». Mais les sportifs vont plus loin. Ils savent qu'ils doivent surmonter cette étape. Et là, ils trouvent comme un second souffle pour courir davantage. Et bien, la prière, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Lorsqu'on se met à prier, on peut trouver au début, ça va, on a nos sujets, on est dedans. Et puis, à un moment, on a l'impression qu'on a fait le tour de la question, que tiens, c'est bizarre, je ne ressens rien, etc. Allons plus loin ! Allons plus loin ! Dépassez son cap ! Et vous verrez qu'il y a une bénédiction qui la suit. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a des choses, on est dans une société où on croit que tout doit aller vite. Tout doit se faire comme ça instinctivement, spontanément. On allume la lumière, tac, ça vient tout de suite. Dès qu'on doit attendre quelque chose plus de 3 secondes, on est dans l'impatience, dans l'agitation, dans l'agacement. Mais avec les choses de Dieu, ça ne change pas. Hein. Non pas que Dieu tarde, non pas que Dieu est au ralenti. Mais rien ne peut remplacer le travail du temps. Rien. Rien. La modernité veut rattraper ça. Mais la vie de prière est calée sur les valeurs de Dieu. Et le temps a son importance. De manière plutôt anecdotique, là ce n'est pas un point commun, si ce n'est que le point commun, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de position particulière pour prier. Hein. En extérieur, en intérieur, assis, à genoux, debout. Certains même, on ne l'a pas cité, mais on voit un moment Élie qui a la tête entre ses genoux. Ce n'est pas la position physique qui importe dans la prière. Le plus important, c'est que le cœur soit bien disposé. Toutefois, c'est vrai que je crois que quand on est impliqué entièrement dans la prière, notre corps aussi parle. Notre corps aussi parle. Mais ce n'est pas le plus important, l'essentiel, c'est que l'âme soit disposée. Mais que nous ne nous braquions pas ou que nous ne nous formalisions pas non plus sur notre position physique, mais c'est vrai que notre corps peut être l'expression de notre état de cœur. Certains prient en marchant, certains vont carrément se mettre à genoux devant terre, devant des situations, qu'importe. Et ce n'est pas mauvais, l'essentiel, c'est que notre corps ne nous empêche pas de développer notre âme et que notre âme ne soit pas empêchée à cause de notre corps. Un point commun qu'il y a à toutes ces prières, et à bien d'autres, c'est qu'il n'y a pas de prière contre les puissances spirituelles. Toutes les prières que nous voyons dans la Bible, au contraire, proclament la gloire et la puissance de Dieu. Toutes. Pourtant, il y a des situations où, par exemple, quand on parlait de Jésus qui est dans le jardin de Gethsémané, ses angoisses, lui qui est revêtu d'une huile d'onction au-dessus de tous, lui qui connaissait cette joie, s'il y avait bien quelqu'un d'heureux sur cette terre, c'était Jésus, et d'une vraie joie, d'une joie authentique. Lui dira qu'il a la lame jusqu'à la mort. Tout ça vient, ça, mais de ses puissances spirituelles. Et on ne voit jamais Jésus commencer à lutter contre les choses, les démons, pas du tout, et tant d'autres situations. Pourquoi ? Oui, il y a un combat spirituel. Et c'est le premier point qu'on a vu. Il y a un combat, une réalité de combat spirituel. Ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas à nous de combattre. C'est Jésus qui a combattu les autorités et les dominations. Il les a vaincus. Ce n'est pas à nous. Nous, nous sommes quoi? Qui sommes-nous pour pouvoir combattre? Nous ne sommes pas dans un combat spirituel. Mais nous devons au contraire demeurer dans la victoire qui a déjà été acquise par Jésus-Christ. Et c'est deux positionnements complètement différents. La foi, ce n'est pas remplacer Jésus. La foi, c'est demeurer en Jésus. La foi, ce n'est pas croire que nous devons retourner à la croix et mourir avec Jésus à la croix contre les autres. Non, Jésus l'a déjà fait, ils sont déjà vaincus. Mais la foi, c'est de demeurer assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Il y a un combat spirituel, mais ce n'est pas à nous de le combattre. Ils sont déjà vaincus et c'est Jésus qui a fait ce travail-là. Ne perdons pas nos repères. La force n'est pas dans la prière. La force est dans le Seigneur. La prière, c'est un moyen. Mais l'autorité, on va la trouver dans la foi dans notre Seigneur Jésus. Et c'est important. Personnellement, je ne crois pas dans la prière. Mais je crois dans le Dieu qui exauce la prière. Et ça, c'est important. Parce que ce n'est pas nos mots qui ont de l'importance, mais c'est la foi qui a de l'importance. Ce n'est pas notre attitude, ce n'est pas notre énergie propre qui a de l'importance, mais c'est notre conviction, c'est notre foi qui a de l'importance. Notre force n'est pas en nous, mais la force est dans la présence de Dieu. Amen. Donc n'oublions jamais ça. Tout ce que nous avons à faire, c'est à demeurer dans la foi. Nous n'avons pas à combattre. Nous avons juste à demeurer dans la victoire qui est déjà acquise en Jésus-Christ. Nous ne prions pas parce que nous croyons que nos prières sont efficaces. Nos prières ne sont pas efficaces. Mais le Dieu est le plus grand des dieux. Alors je prie ce Dieu-là qui, lui, a toute autorité et toute domination et tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et c'est en lui que nous mettons toute notre confiance. Et le dernier point que nous pourrions retenir, c'est que savoir prier, c'est aussi accepter la réponse de Dieu. Prier, c'est savoir accepter la réponse de Dieu. On voit, on a vu plusieurs scènes où les choses ne se sont pas passées telles que les gens l'auraient souhaité. Il y a des situations où l'exaucement ne s'est pas accompli au sens où de l'expression de la prière. Mais en finalité, Dieu a bien fait de ne pas écouter les prières parce qu'il avait un autre plan et ce plan était divin et magistral et bon. Savoir prier, c'est aussi accepter la réponse de Dieu. Parce qu'on peut être toujours dans la revendication. Dire « Seigneur, agis, agis, agis !» Le Seigneur agit. Mais comme lui l'entendait, et comme nous nous attendons à autre chose, bah on est dans la frustration, dans l'attente, dans l'insatisfaction, et on continue de prier, et on perd de notre foi. Il faut effectivement accepter que si nous nous prions, il faut accepter que Dieu reste souverain. Il faut accepter que Dieu soit celui qui a le dernier mot. Il faut accepter que même si le choix de Dieu n'est pas celui que nous, nous aurions voulu qu'il soit, la foi fait que nous savons que la finalité du choix de Dieu sera bien meilleure que tous les scénarios que nous aurions pu lui proposer. La prière, ce n'est pas forcer Dieu à faire ce que nous voulons. C'est pas ça la prière. La prière, c'est une communion avec Dieu. C'est devenir ouvrier avec Dieu. Sachant que c'est lui le chef. La prière, ce n'est pas forcer Dieu à faire ce que nous voudrions, mais c'est entrer dans les projets que Dieu a pour nous. D'où cette nécessité de l'inspiration, de la docilité, de l'inclinaison. J'aime cette parole de Job qui dit « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. » Et combien nous avons besoin de souplesse dans ce domaine, combien on a besoin pour ne pas vivre dans la frustration et qui mène à l'incrédulité. Ainsi, la prière de la foi, ce n'est pas seulement demander, mais c'est aussi accepter la réponse de Dieu. Amen. Que toutes ces situations nous encouragent à être des hommes et des femmes matures dans la prière. Amen.